Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord.
Aujourd'hui, Yann Herry. Raconte-moi la francophonie au Yukon. Des francophones, il y en a toujours eu au Yukon, mais c'est vraiment depuis le début des années 80 qu'ils ont commencé à mieux s'organiser, à se donner des instruments pour s'épanouir dans la langue de Molière. Et cette langue, c'est celle de Yann Herry, originaire du Maroc. Il habite au Yukon depuis 40 ans maintenant. Cet éducateur et enseignant a été un des bâtisseurs de la francophonie moderne dans ce territoire. Yann Herry a notamment contribué à la création du journal franco-yukonais L'Aurore boréale, de l'Association franco-yukonaise, de la garderie du Petit Cheval Blanc et de l'école Émilie Tremblay, et bien plus. Aujourd'hui, à la retraite de l'enseignement, Yann Herry demeure très actif. Il se consacre à l'une de ses passions, l'histoire de la francophonie au Yukon. Il figure parmi les 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne au palmarès Franco-Presse en 2021. Et j'ai le plaisir de le joindre aujourd'hui à Whitehorse, au Yukon. Monsieur Yann Herry, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fontaine.
Ça me fait plaisir de vous parler. J'aimerais que vous nous parliez de vous tout d'abord. Vous êtes natif du Maroc, alors on peut se poser la question, quel a été le parcours qui éventuellement vous a amené jusque dans le Nord canadien? Parlez-nous un peu des circonstances qui ont fait que vous avez choisi de vous établir au Yukon.
Bien, ce qui m'a amené à m'établir au Yukon, mon parcours, en fait, c'est après le Maroc, mes parents sont rentrés en France et après ça, ils ont déménagé au Québec. Donc, j'ai fait mes études secondaires au Québec et universitaires. Et ma passion a été toujours l'histoire. Mais pour faire mes études, j'ai décidé d'explorer un domaine que je connaissais plus ou moins. C'était la géographie. Et c'est par la géographie que j'ai décidé de découvrir le Nord. J'essayais de trouver une spécificité en géographie, puis pour moi, c'était le Canada que je voulais voyager, c'était vraiment d'explorer, de découvrir le Nord, de parler du Nord, de l'Arctique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à explorer. Et en explorant, bien sûr, j'ai été envoûté par le Nord.
D'accord. Et votre premier voyage dans le Nord canadien, si je ne me trompe, c'est en 1975, c'est ça?
C'est ça. J'ai fini mes études, mon bac, et j'ai dit il faudrait que je découvre le Canada, donc j'ai été à l'extrême est, c'est-à-dire à découvrir Terre-Neuve, et après avoir découvert Terre-Neuve, j'ai dit je vais découvrir l'ouest, je suis allé au Yukon. À l'époque, on faisait ça en autostop, c'était les années 70.
Oui.
Donc, c'était vraiment aller vers l'ouest, aller vers Vancouver, et puis moi, comme il y avait beaucoup de gens qui allaient vers Vancouver, j'ai dit je vais chercher un endroit différent, et c'était le Yukon.
Mm-hmm.
Et après le Yukon, en disant je vais voir l'est, l'extrême est et l'extrême ouest, alors il faudrait que je découvre le centre. Et c'est là que j'ai découvert le Mackenzie, des territoires nord-ouest autour du grand lac des esclaves. Après ça, j'ai décidé il faudrait que je voie Nunavut. À l'époque, c'était pas encore Nunavut, c'était des territoires du nord-ouest encore, mais.
Et vous êtes revenu vous établir au Yukon, et si je comprends bien, à cette époque-là, vous avez travaillé dans les mines au Yukon.
C'est ça. Pour faire mes études, on avait besoin de sous, et j'avais déjà été au Yukon, et j'ai trouvé du travail dans les mines, les mines d'argent.
D'accord.
Au centre du Yukon, qui est dans un village qui s'appelle Elsa, ou Mayo, et c'est là-dedans que j'étais. Mais en 1982, les mines ont fermé, donc il a fallu que je me réoriente.
Et c'est là que vous avez décidé de vous lancer vers l'enseignement.
C'est ça. À l'époque, on cherchait des gens qui parlaient français pour donner des cours aux adultes. Et puis, j'ai accepté. Et de fil en aiguille, les gens ont recommandé que je fasse un diplôme en éducation. Alors, j'ai été faire mon diplôme. Et dès que j'ai fini, j'ai eu un poste au Yukon pour enseigner. Et j'ai enseigné pendant 25 ans dans tous les programmes, programme de français langue première, français langue seconde, l'immersion. Et Après ça, j'ai été au ministère de l'Éducation pendant 10 ans.
D'accord.
Donc, je viens de prendre ma retraite.
Une magnifique carrière. Évidemment aussi, le fait que vous avez, je pense que vous avez rencontré votre future épouse au Yukon également.
C'est ça. Dans les années 80, je cherchais à m'établir. Et si jamais j'avais une famille, je voudrais que ça se fasse en français. Et aussi, j'ai rencontré mon épouse qui enseignait dans la même école que moi et on s'est mariés et on a eu les 4 enfants ici au Yukon.
Donc, vous êtes vraiment établi au Yukon. Vous êtes maintenant un franco-yukonais depuis plus de 40 ans. Ça, c'est assez exceptionnel. Quand les mines ont fermé, j'ai lu en quelque part que vous vous êtes intéressé à la francophonie du Yukon parce que vous aviez du temps pour vous. Ça, c'était peut-être avant de compléter vos études, mais vous étiez intrigué par la francophonie au Yukon. Parlez-moi un peu de ça.
C'est ça. Les mines ont fermé tout d'un coup durant l'hiver 81-82. Alors, beaucoup de gens qui travaillent dans les mines ont décidé d'attendre à Whitehorse. Donc, il y a une communauté francophone qui s'est retrouvée à Whitehorse, qui était dynamique, beaucoup de jeunes, et on attendait que les mines réouvrent. Et pendant ce temps-là, quoi faire? Donc, moi, je suis allé à la bibliothèque et on m'a recommandé un livre qui était les noms et les endroits du Yukon. Et j'ai découvert que beaucoup d'endroits étaient nommés, avaient des noms français. Et j'étais curieux. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait eu une francophonie très riche au Yukon et qui continue d'être très riche.
Et c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez un pionnier de la francophonie moderne, parce qu'elle a toujours existé, la francophonie au Yukon, mais elle n'était peut-être pas aussi organisée qu'elle aurait dû l'être. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que vous avez pris conscience que tout était à faire là, pour mieux s'organiser?
C'est ça. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient rassemblés à Whitehorse. Certains commençaient leur vie de couple. Donc, il y avait toute la question de pouvoir vivre en français au Yukon. Et ça, cette idée-là reposait aussi sur le fait qu'au Yukon, beaucoup, beaucoup d'anglophones étaient intéressés à utiliser le français qu'ils connaissaient. Donc, dans les magasins, je disais toujours bonjour en arrivant. Et les 3/4, sinon plus, de temps, on me répondait en français. Donc, il y avait un intérêt pour le français, les langues, les cultures différentes. Je pense que c'est assez spécial au Yukon, parce que peut-être que les gens viennent de partout. Donc, sur cette base-là, pour moi, je voyais qu'il y avait un potentiel de pouvoir vivre en français au Yukon, mais il fallait des institutions, des structures. Et c'est là qu'on a commencé à structurer l'association franco-yukonaise. C'est important de communiquer, donc le journal. Et puis si les gens avaient des enfants, c'était d'être capable de pouvoir élever ses enfants en français, de leur donner une éducation en français. Donc tout est arrivé en même temps très vite.
Oui, et vous étiez aux premières loges de tout ça, et même vous aviez toujours les mains à la pâte, si je comprends bien. Vous étiez de tous les combats, si je comprends bien, M. Herry.
C'est ça. Pour moi, tout ce qui touchait la francophonie puis son développement m'intéressait. Et quand je disais qu'il y avait déjà une base, c'est qu'il y avait déjà des anglophones qui s'assuraient qu'il y ait des signaux de radio et de télévision en français. Donc là-dessus, on a poussé pour la Radio-Canada en français. Donc, et on a créé ce contexte, ce milieu favorable aux Français. Et le Yukon est la troisième juridiction en pourcentage de gens qui parlent français au Canada.
La langue française occupe une place de plus en plus importante au Yukon. Par exemple, en 2001, on dénombrait 890 personnes ayant le français comme première langue officielle parlée. Et en 2016, ce nombre a bondi à 1640 personnes, soit une augmentation spectaculaire de 84,3%. Le nombre de personnes qui peuvent soutenir une conversation en français et en anglais est également en hausse constante et se chiffrait en 2016 à 13,8% de la population. C'est intéressant aussi que vous dites qu'il y avait beaucoup de réceptivité, qu'il y avait une volonté d'accueil de la francophonie, parce qu'on entend souvent des histoires, je pense ici au Manitoba, mais également en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, les batailles épiques, ne serait-ce que pour avoir la gestion des écoles. Mais vous, ce que vous dites, si je comprends bien, et puis vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais c'est qu'au Yukon, il y avait une réelle ouverture pour la francophonie, même de la part des anglophones et des autres cultures.
Oui. Je pense, c'est juste des spéculations, mais je pense que c'est parce que les gens viennent de partout au Yukon. C'est une population très cosmopolite. Et donc, les gens vivent ensemble et trouvent un intérêt dans justement la culture et la différence de culture et de langue. Et ça, c'est la preuve, c'est le dynamisme artistique qu'il y a au Yukon. Il y a énormément d'artistes de production ici au Yukon.
Quand vous regardez l'état des lieux de la francophonie du Yukon en 2022, que vous regardez tout le chemin parcouru depuis 1982, depuis le début des années 80, quelle est votre évaluation? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous sentez que la francophonie continue de s'épanouir?
Oui, elle se développe beaucoup. La preuve, c'est le fait que maintenant, on a une école secondaire francophone qui est presque déjà pleine. Il y a l'école primaire et grande nouvelle pour la francophonie yukonaise, c'est l'ouverture d'une école française à Dawson City, la deuxième ville en importance du Yukon. Et aussi, c'est le lieu où il y avait une importante francophonie au temps de la ruée vers l'or en 1896-98. Et autre chose qui est intéressant, si on peut faire un lien avec l'histoire, c'est que l'école francophone qui va être ouverte à Dawson va être ouverte dans le même lieu, le même bâtiment que l'école qui existait à l'époque à Dawson, à l'école Sainte-Marie. Et pour une francophonie dynamique, il faut qu'elle se développe dans tous les domaines d'activité d'une société, d'une communauté. C'est pour ça que j'aime beaucoup être au début, à la mise en place des institutions. Et après, dès que je vois que c'est mis en place, je regarde d'autres endroits où la francophonie peut se développer. Et finalement, je fais comme une boucle. Ma passion était l'histoire. Et maintenant, à la retraite, je travaille sur l'établissement d'une société d'histoire francophone du Yukon. Et je trouve que c'est important que la francophonie soit au courant de son histoire parce que ça fait partie du discours politique. C'est partie du discours pour montrer que la francophonie a toujours été ici depuis que les Européens sont arrivés.
D'accord, et on va y revenir peut-être en fin d'entrevue, mais j'aimerais vous entendre au sujet du Yukon comme tel parce que c'est quand même pas la francophonie qui attire les gens vers le Yukon. Si elle est là et elle est organisée, c'est tant mieux. Mais qu'est-ce qui vous a attiré comme tel? Et qu'est-ce qui fait que 40 ans plus tard, vous êtes toujours au Yukon?
C'est la géographie qui m'a amené dans le Grand Nord. Et tout de suite, j'ai été comme hypnotisé par le Grand Nord. Et j'ai toujours eu du mal un peu à mettre en mots cet attrait. Et pour moi, je pense que c'est connecté c'est un peu drôle à dire, mais à toucher l'infini. À visualiser un peu l'infini, ces grands espaces sans fin.
Vous religieux y voit cette nuit d'oiseaux, à l'assaut de la mer inconnue, où vont-ils? Moi je dis que là-bas il y a des roseaux. Allons voir, allons voir.
Dans le Nord, dans l'Arctique, on arrive à se rapprocher de ce concept d'infini. J'avais un oncle au Maroc qui me disait, quand je lui parlais de l'Arctique, qui me disait, ce que tu me racontes sur l'Arctique, c'est ce que moi je ressentais quand j'étais dans le désert du Sahara. C'est-à-dire ces espaces immenses où tout semble pareil et puis finalement, à force de le regarder, tout vient différent. Notion-là qui m'attire toujours. Et aussi le fait qu'on est face à face avec la nature, face à face avec la survie, parce qu'à cause des éléments qui sont difficiles. Donc ça touche un peu les réflexions de vie que les gens se font.
Ton destin, le mien, nous ne mangerons plus. Nous irons frayer aux savanes intérieures. Tu enflammeras mon désir.
Et ce ciel immense, cette clarté aussi pendant la belle saison, comparativement à la noirceur pendant l'hiver, pour quelqu'un qui, comme moi, n'a jamais été au nord du 60e parallèle, c'est difficile à imaginer. Est-ce que ça joue un rôle, ça aussi, dans votre vie, dans votre amour du Yukon, ce phénomène qui fait en sorte qu'on vit complètement différemment d'ailleurs?
C'est sûr. C'est comme je dis souvent aux gens, c'est comme si on avait deux journées dans une pendant l'été. Oui. Parce que on a notre journée régulière et on finit de manger le soir vers 6-7 heures. Et puis, on a encore une autre journée qui commence. On peut aller travailler dans le jardin, faire du sport, faire des expéditions. Donc, c'est parce que c'est la clarté. Comme maintenant, au mois de mai, à la troisième semaine de mai, on a la clarté toute la nuit, jusqu'à la troisième semaine de juillet. Donc, c'est un temps intense, c'est le temps du camping, les gens sont dehors, justement, renouent avec le pourquoi ils sont venus dans le Nord, cet attrait de la grandeur de la nature. Puis,
Vous nous donnez le goût de voyager et d'aller voir votre coin de pays, M. Herry.
Je reçois beaucoup de plus en plus de familles ou d'amis qui viennent au Yukon, et justement, ça me fait toujours un grand plaisir de leur montrer, de leur faire découvrir ce Yukon, ce Yukon historique, mais aussi le Yukon du plein air.
J'aimerais revenir maintenant sur un jumelage. En l'an 2000, la ville de Whitehorse s'est jumelée à Lancieux, en Bretagne. Expliquez-nous pourquoi ce jumelage a eu lieu et puis qu'est-ce qu'il signifie?
Le gouvernement du Canada, pour l'an 2000, puis partout dans le monde, on cherchait des projets qui marqueraient l'arrivée du nouveau millénaire. Donc, il y avait cet esprit de créer des liens. Et quel était le lien qui pouvait connecter les différentes communautés? C'était le poète Robert Service. Le poète Robert Service est très, très connu au Yukon. Et il a réussi à capter, un peu comme Jack London, l'esprit du Yukon. Et je me suis aperçu à ce moment-là que Robert Service avait vécu en France après avoir quitté le Yukon. On a dit que ce serait intéressant d'avoir un jumelage avec Lancieux qui est à près de Saint-Malo, donc la patrie de Jacques Cartier. Donc ce serait intéressant d'avoir un lien entre les deux. Sur cette base-là, et les deux villes ont établi leur jumelage. Et depuis, il y a eu des échanges étudiants qui se sont faits avec Lancieux et des liens presque annuels entre les deux villes, entre la France et le Yukon.
Ça, c'est magnifique. Et puis, d'ailleurs, j'aimerais signaler que la semaine prochaine, nous allons mettre en ligne une entrevue avec Mme Charlotte Service-Longépée, qui est l'arrière-petite-fille de Robert W. Service, le barde du Yukon. Je vous rappelle qu'on s'entretient avec M. Yann Herry, qui habite à Whitehorse, au Yukon, et qui continue de faire grandir la francophonie depuis plus de 40 ans. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes maintenant enseignant à la retraite. Vous avez pris votre retraite, mais évidemment, on soupçonne que vous êtes encore très, très actif et que votre passion pour l'histoire peut prendre un peu plus de place là, dans votre vie. Parlez-nous un petit peu de cette société historique que vous avez mise sur pied récemment.
Elle a été créée en avril 2021. Il y a toujours eu l'association franco-yukonaise qui s'est occupée justement de l'histoire, mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes qui venaient des anniversaires à célébrer, puis aussi beaucoup de demandes de gens dont les parents étaient venus au Klondike, et les gens posaient des questions sur savoir si on avait de l'information sur ces gens-là. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, on s'est dit il faudrait une société d'histoire pour pouvoir créer ce qu'on peut dire une bibliothèque de référence, c'est-à-dire que les gens peuvent appeler ou nous contacter et on pourrait les mettre en contact avec soit les archives du Yukon ou différents organismes pour connaître un peu plus sur leur francophonie et aussi nous être capables d'avoir l'information sur tous ces gens-là pour offrir un service au public en général. Il y a besoin aussi de trouver l'information pour soutenir le discours politique pour l'association franco-yukonaise de présence au Yukon depuis les tout débuts de la présence européenne.
C'est un magnifique projet pour un homme qui demeure très, très actif. J'aimerais aussi que vous me parliez un peu de ces portraits de francophones que vous avez faits et sur lesquels vous continuez de travailler.
j'ai eu mon diplôme en enseignement, donc j'ai enseigné pendant 25 ans, et à un moment donné, on m'a demandé de faire une maîtrise sur une ébauche d'histoire de la francophonie au Yukon. Donc, j'ai produit un document qui était basé je retraçais les périodes de l'histoire francophone à travers des personnages. Et à un moment donné, on m'a dit, ce serait bien qu'on puisse voir ces personnages. Alors, j'ai monté une galerie de portraits de 20 francophones qui ont participé à l'évolution du Yukon dans plusieurs domaines. Ils ont fondé des villages où ils ont été en musique, où ils étaient dans l'économie. Et ces 20 portraits, maintenant, la galerie est dans l'escalier de l'association franco-yukonaise. Comme ça, tous les gens qui viennent peuvent voir la contribution des francophones au cours des siècles. Et il y avait les portraits, les gens ont commencé à poser des questions pour savoir qui étaient ces personnages. Et c'est là que j'ai écrit un livre qui accompagne la galerie avec une brève description de ce que font ces personnages en français puis en anglais.
D'accord. Et si jamais les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont à Whitehorse ou Yukon, ils verront entre autres l'école Émilie Tremblay. Vous étiez non pas peut-être pas à l'origine de l'école, mais certainement que vous y avez participé à sa fondation. La garderie du Petit Cheval Blanc, le journal, je pense qu'il existe toujours, le journal oui. Franco-yukonais, l'Aurore boréale. Alors, tout ça, ce sont des projets auxquels vous avez participé. Cette galerie, évidemment, il y a aussi l'Association franco-yukonaise. Bref, vous avez été un homme important pour la francophonie au Yukon, puis c'est un grand honneur pour moi de vous avoir parlé, M. Yann-Héry.
C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience, de la faire connaître pour les générations qui montent, voir que même si on n'a pas toute la connaissance, le fait de mettre la main à la pâte aide à construire une communauté.
Raconte-moi la francophonie au Yukon est une production de Web West Balado animée par Jean Fontaine et réalisée par Yann Malher. Notre invité, Yann Héry.